les feuilles tombent. Voyez? La grâce ne détruit pas la nature. La grâce ne détruit pas la nature. Donc quand arrive la saison de l'automne, que les feuilles tombent, il y a quelque chose de similaire. Vous voyez, l'homme, l'humanité vit au rythme des saisons. Et la grâce ne détruit pas la nature. C'est un petit peu normal qu'il y ait comme des choses qui tombent chaque année, à peu près au moment de l'automne. Donc il y a certaines solidités, vous voyez, certaines forces qui disparaissent, certaines vertus aussi, vous voyez, certaines certitudes, certaines sécurités, voyez, qui tombent. Ça, c'est très très bon, ça. Excellent. On est obligé de reprendre. On est obligé de reprendre, donc, quelque chose de plus profond en nous. De plus profond que ce qui a fleuri dans la dernière période de l'année. Il y a quelque chose qui est né dans ce temps de la grâce et de la nature, par lequel nous avons eu une croissance depuis 9 mois, vous voyez. Et puis arrive l'automne. Quelque chose qui est né, et puis les feuilles tombent. C'est extraordinaire. Alors il faut prendre du bois mort, et il faut faire du feu dans la cheminée, dans la maison, à l'intérieur, pour qu'il y ait un réchauffement, pour qu'il y ait une intériorisation. Une intériorisation, et pour qu'il y ait une nouvelle flamme, un nouveau foyer, une nouvelle source de chaleur, une nouvelle source de lumière. Et cette nouvelle source de lumière, elle est... on ne va pas la trouver dans les événements extérieurs. Tout ça tombe. Et heureusement que nous avons un automne chaque année. Parce que la grâce de Dieu, nous le savons très bien, vient, j'allais dire, en plus épouser les rythmes de la nature. Et l'homme lui-même est dans le rythme du cosmos. Et c'est ça qui est extraordinaire, ça, vous voyez. Toujours qu'il y ait cette espèce de reprise, vous voyez. Et donc si il y a quelque chose dans ce qui serait tout à fait normal, dans qui fait que tiens, on ne peut plus, on sent très très bien quand on arrive dans ces périodes dans lesquelles nous sommes, on sent très très bien qu'il y a une nouvelle vie à reprendre. Il y a un nouveau centre à retrouver, une nouvelle conversion. Parce que sinon, eh ben, on s'affole. Le chien aboie. Ah, le chien aboie. Ah, les feuilles tombent. Terrible, ça. Ah, ça va sentir, ça va salir mon jardin. J'ai passé tout mon été à mettre des fleurs, puis c'est pourri par les feuilles maintenant. Incroyable, on recommence. Bon, vous voyez, c'est formidable, ça. Faut faire un nouveau jardin. Faut reprendre tout. On ne peut jamais se reposer. L'amour ne s'arrête pas. L'amour ne peut pas s'arrêter. Ce n'est pas possible. Et vous voyez, et bien sûr, s'il s'arrête, si d'un seul coup on s'arrête d'aimer, si d'un seul coup on s'arrête de croire à l'amour, si d'un seul coup on s'arrête de croire à l'unité profonde de l'amour pur et éternel de Dieu avec notre création, notre temps, notre vie, si à un moment donné, vous voyez, on s'arrête, alors à ce moment-là, on se dit, tiens, mais... Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant est un échec. Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant est une bêtise. Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant est une maladresse. Il ne faut jamais s'arrêter. Et heureusement que les feuilles tombent, vous voyez, parce que c'est comme une espèce d'appel à l'unité, vous voyez. D'appel à l'unité profonde de l'amour. De l'éternité de l'amour pur de Dieu, et puis de tout ce qui est morcelé dans la multiplicité du temps. Vous voyez ? Une belle introduction quand même à notre thème du samedi après-midi, qui est celui de l'unité, et dans la multiplicité. Où est la source de cette unité ? Qu'est-ce que c'est que l'unité ? Et puis, rentrer dans le point de vue donc de l'unification, de l'énosis. Je rappelle à ceux qui viennent pour la première fois que le samedi après-midi est réservé à la philosophie. On ne fait pas de spiritualité, disons chrétienne, on ne fait pas de théologie, hein. On fait de la philosophie. en grec, philosophie, tu vois, philosophie. C'est l'amour, l'amour de la sagesse. La sagesse, c'est une saveur profonde dans l'unité de la lumière. Trouver cette source de sérénité, de saveur, de l'unification dans l'ordre de la lumière. De l'unification, je dis bien de tout. Tout est unifié dans la saveur profonde de l'intelligence qui savoure la lumière unifiante de tout ce qui existe. Dieu compris. C'est ça la sagesse. Et aujourd'hui, alors, sagesse, philo, Sophia, n'est-ce pas? L'amour, philo, Sophia de la sagesse. Nous aimons, nous sommes attirés par la sagesse. C'est pas la philosophie de Freud, des universités ou du bac. Hein. Alors ça, on s'en tord, on s'en fiche complètement. Enfin, on s'en fiche complètement. Ce qui s'intéresse, c'est la philosophie, c'est au fond réaliste. C'est pas les idées. On ne cherche pas les idées. Dès que vous avez une idée, jetez-la vite, grâce à l'automne. Et si elle s'enracine sur un tronc, sachez bien qu'il vaut mieux faire sécher ce tronc et le brûler au feu, hein, pour retrouver justement les sources de la sagesse. Les sources de la sagesse, c'est quoi? C'est une intelligence, voyez, éveillée et en lien tout le temps avec le réalisme de l'expérience humaine ouverte. Et c'est ce que nous essayons de faire ici. La question donc de l'unité, donc en... c'est le dimanche plutôt qu'on essaye de regarder du coup la Bible, hein. Et donc demain, nous essaierons de rentrer un petit peu plus dans le dernier livre de toute la Bible, l'Apocalypse, pour lire l'Apocalypse ensemble. La lire avec l'Immaculé, avec l'Esprit Saint, avec le corps mystique de l'Église tout entière. Le lire ensemble. Savourer la révélation, le dévoilement du dévoilement. Et puis, donc, le lundi, je vous rappelle, donc ça, c'est parce que je vois qu'il y a quelques visages nouveaux là-bas. Et donc, le lundi, nous faisons plutôt nous essayons de regarder la question donc de la vie spirituelle, de la vie intérieure, et puis tous les conseils que l'Église donne pour qu'on puisse se retrouver dans l'axe, hein, dans l'axe des sept dons du Saint-Esprit. Normalement, cette année, nous avons choisi comme thème de théologie spirituelle, de conseil spirituel, la tentation, la question de la tentation. Alors, donc, samedi après-midi, vous n'étiez pas prévenu, mais tant pis pour vous, c'est de la philosophie. Ceci étant, la philosophie... Ce n'est pas la philosophie, comme je vous l'explique, une philosophie universitaire. Pourtant, nous avons choisi comme thème cette année la question de l'un. L'unité. L'un. Hein, c'est l'un. L'un. Ce n'est pas tout à fait l'unité, n'est-ce pas? C'est l'un. C'est important, parce que vous comprenez qu'à partir du moment où nous ne sommes pas capables de faire nous-mêmes l'expérience, je dis bien l'expérience concrète, réaliste et contemplative de l'un en nous, ça me paraît difficile de pouvoir penser pouvoir, qu'on est capable, qu'on serait capable de comprendre par quelle voie on peut directement trouver Dieu qui est lui-même un. C'est un problème, vous voyez, c'est un problème, notre créateur est unique, il y a un seul créateur. J'ai pas besoin d'avoir la foi pour ça, hein. La foi, c'est pas la foi qui me dit que Dieu est un. C'est le bon sens. C'est le bon sens. Que vous soyez Zoulou, macropole, macrobiote, pardon, je veux dire, hindouiste, chrétien, ben, Dieu, il n'y a qu'un seul créateur. Philosophe, Aristote était athée. Bien sûr, il y a un seul être premier créateur de tout ce qui existe. C'est évident. Celui qui dit le contraire, ça veut dire que le pauvre garçon, il n'est pas très très doué, quoi. Bon, c'est pas de sa faute. C'est pas doué. C'est quelqu'un. C'est pas un surdoué, c'est un indoué. C'est un subdoué. Il est en dessous du niveau de la mer. C'est son intelligence qui ne marche pas. C'est pas la question de la religion, vous voyez. Rien à voir. Parce que ce que nous avions vu donc l'année dernière, pourquoi est-ce qu'on en vient à se poser cette question? Qu'est-ce que c'est exactement que faire l'expérience? Je dis bien l'expérience, vous voyez, c'est très... Non pas de l'unité, vous voyez. L'unité, c'est l'énosis en grec. Énosis. Je m'excuse, vous ne savez pas lire le grec, alors ça fait énosis. L'unification, l'unité. L'unité, c'est quoi? C'est ce par quoi, c'est le chemin qui nous permet d'arriver à au to-en, c'est-à-dire à l'un. En grec, le en, c'est un. Et je vous faisais remarquer que le un, cette histoire de un là, cet un, l'un en soi, l'un concret, vous voyez. C'est très très important pour nous de remonter à l'un, de retrouver l'un, de faire que, vous voyez, que cet un soit actuel, concret, réel, métaphysique, c'est-à-dire physique en même temps spirituel, et traversant tout. Hein? Cette espèce de grande démarche, vous voyez, de la découverte de l'un est quelque chose de très important. C'est ce qui fait, j'allais dire, la recherche de tous les sages, de tous les temps et de toutes les cultures. C'est l'œcuménisme de toutes les recherches de sagesse. Alors, où que vous soyez, en Inde, partout. Voilà, ça c'est vraiment. Et même les penseurs, vous voyez, les penseurs, qu'est-ce qu'ils cherchent? Les grands penseurs, les idéologues, les soi-disant philosophes, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à donner une version, leur version à eux, de ce qui est un, et qui fait que tout est un. Et qui est source de tout le reste. Donc, la multiplicité doit se ramener à l'un. Donc, toutes les idéologies, toutes les philosophies, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui est le multiple? Qu'est-ce qui est l'un? Pour Freud, par exemple. Freud. Vous avez entendu parler. Dès que vous vous sentez mal, et que vous allez voir un psychiatre, vous allez à fond d'Aurel, on est pour un psychanalyste. Bon. Alors, Freud, mais il y en a d'autres, hein. Il y a Jung, il y a Lacan, etc., Reich, enfin, on peut faire toute une chaîne diabolique, c'est-à-dire en grec, diabolos, ça veut dire génial. Hein. Bon. Démoniaque, daimon, pardon. Ah là là, daimon, le démon, daimon, ça veut dire le génie. Donc toute une chaîne démoniaque, une chaîne vraiment géniale, c'est ça, ça veut dire, démoniaque, génial. Moi je ne parle pas du tout démoniaque au sens où les mystico-dingos disent démoniaque, non, au sens grec. C'est génial, hein, génial, c'est génial, là. C'est génial, Freud, Lacan, Jung, c'est génial, c'est démoniaque, vraiment. Mais c'est faux. C'est faux. C'est malheureux. Mais il dit, mais je suis dépressif. J'ai un problème. J'ai un problème névrotique. J'ai un problème machin. J'ai des angoisses. J'ai des tas de trucs. J'arrive pas à m'en sortir. J'ai des pulsions. J'ai des perversions. Ou alors j'ai des obsessions. J'ai des idées fixes. J'ai des... Je suis calu, quoi. Comme disent les pêcheurs de Marseille, il est calu. Il est calu. Alors, ben oui, alors non. Ah, ben oui, mais alors là, c'est une question de survie, hein. C'est une question de survie. Je vais vite voir mon psy. Et mon psy va me flanquer, ou bien des antidépresseurs, ou bien me mettre dans une espèce d'auto-analyse avec des critères qui vont me permettre de voir que telle chose, oh, mais ça ne sert rien, c'est la multiplicité, ça, telle chose, c'est la multiplicité, telle chose, c'est la multiplicité. Mais ce qui, le nœud, finalement, c'est quoi? Donc, et l'idéologie freudienne est une idéologie qui lit, qui propose une lecture sur la vie humaine, vous voyez, sur la vie tout court, d'ailleurs, sur le cosmos, sur l'univers, sur le temps et l'éternité, sur tout ça. Le type qui est psy, le psychanalyste, il a tout un schéma de lecture, pour lui c'est ça, puis c'est tout. Hein. Alors c'est quand même drôlement important, voyez, que nous puissions savoir où est-ce que c'est faux. Si je n'en fais pas moi-même l'expérience, vous voyez, l'expérience, j'allais dire contemplative, c'est-à-dire à la fois concrète, irréfutable. Je dis bien une expérience concrète, irréfutable. C'est pas moi qui vais vous l'enseigner. Hein. Pour moi, tout simplement, je peux vous enseigner quelques petites choses, quelques petits éléments, pour que vous soyez amenés à faire l'expérience philosophique personnelle de la découverte de l'un. Qu'est-ce qui est un? C'est l'un en soi. Où est-ce qu'on trouve ce un? Vous voyez? Qu'est-ce que c'est exactement d'ailleurs? C'est barbare cette histoire, l'un. Pourquoi pas le deux? Ça sert à quoi? On perd son temps avec ces histoires, on n'a pas de temps à paumer avec ça. Avec tous les problèmes qu'on a, avec les gosses, etc., avec Supé et compagnie, vous voyez. Prenez. Et puis, il y a des trucs beaucoup plus urgents. Beaucoup plus urgents que s'occuper de ça. Vous croyez? En êtes-vous certain? Et si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes certains du contraire. Nous sommes certains que la recherche de la vérité est celle qui origine, vous voyez, celle qui origine, c'est-à-dire la reprise de tout, de manière à ce que la vie continue. Si je mets en forme de gravité en dehors de l'axe, hein, eh ben, je veux dire, ça ne va pas durer longtemps, mon histoire. La vie ne va pas durer très longtemps. Nous sommes là pour la vie. Nous sommes là pour la vérité. Nous cherchons la vérité. Nous cherchons ensemble la vérité. Jamais personne ne vous dira, voilà la vérité. Mais par contre, il peut vous aider. C'est ça, un sage. Il vous aide à découvrir vous-même la vérité, à partir de l'expérience. Et si on vous flanque des théories, vous êtes sûr, et certain, que vous ne trouverez jamais l'un. Impossible. Parce que là, l'un n'est pas dans les idées. Les idées sont multiples. Elles sont toutes relatives. Elles sont toutes subjectives. Elles sont toutes originées dans un fantasme. Dans un fantasme. Et le fantasme est une production qui vient de l'imaginaire. Et l'imaginaire est la puissance de l'âme que nous avons en commun avec les animaux. Ah, pas mal comme sens de l'un. Les idéologies Freud, Marx, Hegel, Auguste Comte, Nietzsche, etc. Et j'en passe, c'est les meilleurs, parce que c'est les sympas. C'est sympa. Donc il va falloir que, regarde, qu'est-ce que c'est cette histoire de Freud? Freud, qu'est-ce qu'il dit, Freud? Et voilà. Voilà, vous avez des pulsions. Ah, très intéressant. Ah, vous avez une idée fixe, là. Ah, très intéressant. Oh, ah, là, vous sentez mal, une angoisse. Oui, très bien. Oh, là, à chaque fois qu'il y a une telle situation, vous avez mal à la tête. Tiens, c'est intéressant. Bon, tiens. Ah, oh, oui. Ah, vous avez fait 3 avortements. Bon, ça c'est bien. Bon. Tiens, vous avez envie de partir en Inde pour faire un petit au Népal. Oh, ah, rigolo. Hein? Ouais. Ça, c'est amusant. Donc, je regarde ça. Et oui, et puis, je fais le tour comme ça. Je fais le tour. Et puis, je regarde ça. Qu'est-ce qu'il y a de commun tout ça? Qu'est-ce qu'il y a de commun tout ça? Et puis, finalement, qu'est-ce qu'il y a de commun à tout ça? C'est qu'au fond de vous, il y a une pulsion irrésistible, une pulsion irrésistible, une énergie fondamentale qui traverse tout, qui explique tout, et qu'il appelle la libido. La libido, une énergie fondamentale. L'homme est fait pour aimer. C'est pas mal, je trouve, d'ailleurs, comme idéologie. C'est une idée que j'épouse assez facilement, si vous voulez bien. Mais enfin, il le prend à un niveau, voyez, il le prend à un niveau vraiment bizarre. L'homme est fait pour aimer, ça. Je veux dire, là, tu es sûr d'avoir tout le monde dans la poche avec ça. Mais ouais, mais attends, c'est pas vrai. Il est fait pour aimer. Ah, en quoi consiste l'amour? Ah, l'amour consiste à faire que on a envie de donner, on a envie de se donner, on a envie de se répandre, on a envie de se... On a envie de vivre, on a envie d'éclater, de rentrer à la plénitude, de sortir de nous, on a envie d'extase, on a envie de bonheur, on a envie de... Vous comprenez? Toujours sortir de nous-mêmes, on a envie de dépassement, on a envie d'aller toujours plus loin, d'absolu. Une source de libre en nous, on a commencé dans la première cellule, si vous voulez, notre... Finalement, si on regarde la substance, le centre, ce qui est unique en nous, c'est cette espèce de libido, cette énergie fondamentale qui ne demande qu'à se répandre, parce que l'amour, c'est se répandre, c'est l'extase, c'est sortir de nous. C'est... Mais, oh, catastrophe, voilà que papa arrive, il y a maman, et puis il prend un instrument castrateur. Et ils vont me castrer. Ne mange pas du chocolat. Arrête de te frotter le pipi. Mais c'est ça, Freud. C'est ça, Freud. Et ils vont me castrer. Et je vais avoir du coup le complexe d'Oedipe. Ils vont... Et du coup, bon, et il prend le sécateur, je peux plus rien faire. Et papa, le maître d'école, c'est pareil, tais-toi, arrête de jouer, ne parle pas en classe, et le curé. Toute ma vie est une castration. Je suis castré. Et toutes les feuilles qui sont ici sont les résultats du complexe de castration. L'homme est réduit à un complexe de... Et c'est une petite fille, t'es castrée au départ, parce que la preuve, t'as pas d'ici. C'est Freud, ça, voyez. C'est le centre, c'est l'axe, c'est l'idée maîtresse de tous les psychanalystes. C'est extraordinaire. Pour Freud, l'esprit n'existe pas. La vie, l'intelligence contemplative n'existe pas. La capacité spirituelle d'extase du cœur n'existe pas. L'être, le jugement d'existence, est impossible. Alors du coup, qu'est-ce qui reste? Il reste cette espèce d'instinct d'énergie vitale pure. On est créé, cette énergie vitale pure, voilà la vision freudienne, qui est aussi une vision de... C'est la même vision que Jung, hein, même si Jung va exprimer les choses différemment, hein, il va exprimer les choses différemment du point de vue, j'allais dire, des résultats, hein, donc des blocages. Hein. Mais il va exprimer la chose pareille du point de vue de l'énergie. L'un pour Freud, l'un pour Lacan, l'un pour Jung, c'est la même chose. Hein. C'est cette énergie vitale, cette énergie primordiale. Il y a une énergie primordiale, finalement, vous savez, Jung comme Freud. Donc, traduisez tous ceux que vous voyez à la télévision. Hein. Le type qui présente les informations télévisées dans le monde, il est freudien. Hein. PPPDA, là. Il est freudien. Ça, et Anne Sinclair aussi. Hein. Et Simone Veil aussi, qui était Premier ministre à l'époque de M. Barr, je crois. Je sais pas quoi. Ils sont freudiens. Moi, j'ai vu de mes yeux, j'ai vu Simone Veil sur un divan se faisant psychanalyser. Donc, elle y croit. C'est leur problème. Nous cherchons la vérité. On ne cherche pas à rentrer dans une idéologie. Vous voyez, on cherche la vérité. Il faut comprendre ça. La vérité pour eux, l'un pour eux, ça veut dire, ah ben voilà, tout le monde se pose la question de l'un. Qu'est-ce que c'est qui est qui rassemble tout dans l'un? Tout se rassemble dans l'un. C'est quoi? C'est quoi ce centre et en même temps cette présence, cette omniprésence de tout un? Là où toute la multiplicité disparaît dans l'un. Oh, que si on pouvait faire l'expérience de ça, mon Dieu, enfin on commence à sortir de nos... C'est vrai, c'est pas drôle d'être une espèce de peau cassée en mille morceaux. Si on pouvait trouver cette espèce de... toute la multiplicité dans l'un. Cette réconciliation de l'un et de l'un et du multiple, vous voyez. Alors, donc pour Freud, ben c'est très simple. Ce qui est unique, la seule chose, ce qui est avant tout ce que nous voyons dans la multiplicité, c'est cette énergie. Cette énergie omniprésente. En fait, il est bouddhiste, hein, Freud. C'est une vision, finalement, si vous voulez savoir, elle est une vision tibétaine. Il y a une énergie primordiale. Cette énergie, lorsqu'elle tombe dans la matière, elle ne demande qu'à se répandre, mais les limites de la matière l'obligent à se réfréner, et du coup, elle n'est plus elle-même, et elle cherche à retrouver son origine primordiale sans les obstacles de la matière, donc sans les obstacles de l'autre. Donc, il faut retrouver l'anonymat du tout. Et la source de tout, c'est l'énergie, puis c'est tout. La libido, c'est tout. Et nous, cette énergie fondamentale, lorsque, par un mystère, j'allais dire, de génération, de vie, d'évolution, etc., elle commence à s'exprimer de manière individuelle dans un être humain, eh bien, elle va déjà être modalisée, court-circuitée, par le père et la mère, comme on est, le papa. Et voilà. Et puis, donc, on va être drôlement embêté. Hein. Et donc, il va falloir que nous, cette espèce d'énergie pure, pure, immaculée, hein, elle puisse aller jusqu'au bout d'elle-même, et donc, elle puisse rejoindre cet état où elle n'a plus, elle n'est pas, il n'y a pas l'obstruction de l'autorité, du castrateur, de l'impédimenteur. Comme, vous voyez, à chaque fois que vous avez une idéologie, à chaque fois vous avez une vision de l'âme. C'est une certaine idée de l'âme. C'est ça, une idéologie. C'est une certaine idée de l'âme. Freud, à un moment, tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui fait que tout va se rassembler et que je vais être vraiment moi-même? Tout le monde se pose cette question. Tout le monde, tous les sages se posent cette question. Freud un jour dit, ça y est, j'ai une idée. L'un, c'est la libido. Et il fait toute la construction de son système de pensée, d'analyse, des problèmes, etc., à partir de ce principe. Et nous, comme des moutons de panurge, hein, on va en masse. C'est extraordinaire, vous savez, les oies, vous savez, vous avez déjà vu des oies là qui se promènent et en bloc et se précipitent sur la mare freudienne, vous voyez, c'est extraordinaire. Voilà. Je me rappelle de ces oies, je trouve ça tellement marrant. Quand j'étais petit, j'avais mon frère jumeau et on était dans une ferme et il y avait ces oies qui étaient tellement bêtes. Eh bien, il a suivi un jour les oies. Tellement, ces oies qui vont ensemble là, n'importe où. C'est tellement idiot. Alors mon frère, qui le recherche toujours, la sagesse. Dit, non, ça ne peut pas être ça. C'est pas la bêtise. Là. C'est pas les moutons de panure. Alors, il a foncé dans le tas. Tiens, il fonce dans le tas. Bon, là, je regardais ça, et mon frère qui fonçait dans le tas. Il fonce dans le tas, et il y en avait une oie qui se détache. Ah, ça, une oie qui se détache. Alors, il la détache, mais il lui a fait peur aussi. Alors il a couru derrière l'oie. Il était content, elle était toute seule. Alors il courait derrière, elle est passée sur le fumier, etc. Et lui il a couru derrière, il n'a pas vu que c'était le fumier. Il rentre dans le fumier. Il avait 2 mètres de profondeur.
Il était à la mer.
Mais oui, mais n'empêche que pour aller le rechercher, il était, il savait pas nager, il est resté nager. Non, il n'avait pas pied. Pour aller le rechercher, il n'aurait pu en mourir. Voilà. Si nous ne trouvons pas l'un, nous nous noierons dans le fumier. Il faut pas avoir, vous voyez les oies, la bêtise du troupeau des oies, c'est, il faut retrouver l'intelligence concrète, réaliste de l'un, du tout. Sinon, si je ne vois pas l'un, alors comment rentrerai-je dans l'énosis, c'est-à-dire dans cette vocation de l'unification? Ça, c'est une question de sagesse très, très importante. Je pourrais avec vous aujourd'hui, je pourrais avec vous, remarque qu'on peut le faire, si vous voulez, rapidement, je sais pas, j'ai pas de programme. Hein. On pourrait regarder, là, Joseph Freud, on pourrait regarder les sept visions erronées de l'un. Les sept idéologies. Vous savez, une grosse bête, rouge, mais bon, comme dit l'Apocalypse, puisque... Une grosse bête, n'est-ce pas? Oup. Ah. Avec des boucles dans les oreilles, pas? Hein? Voilà. Une, deux, trois, quatre, cinq, six boucles, c'est beaucoup mieux. Voilà. Voilà, la bête. Bon, non, ça c'est les yeux. Donc ici, c'est, oui, voilà. Donc une grosse bête, il y a un gros ventre, hein? Un gros ventre énorme. Et puis, il y a cette tête. Un, deux, trois. Ça ressemble trop à une fleur, je trouve. Six. Et puis, une toujours qui se planque derrière les autres. Hein. Voilà. Ah, des têtes. On va mettre des cornes hein, pour montrer que c'est pas la vérité. On est donc d'accord. Des cornes à chaque fois. Voilà. Ah, c'est bien. Un sourire à l'envers, grimaçant. Voilà. Et un éclair, des voix et des tonnerres, c'est-à-dire Saint-Esprit qui fait exploser tout ça. Ça, c'est l'Apocalypse, chapitre 12 de l'Apocalypse. Je vis alors une bête énorme, rouge, dragon, feu, à sept têtes. Et à 10 cornes. Ah, où sont les 10 cornes? On va mettre les 10 cornes là, oui, d'accord. Une corne. C'est anarchique les cornes. Hein. Alors il y en a une qui l'a sur la tête, l'autre qui l'a. C'est Freud ça, dans le zizi. Bon. etc. L'autre qui l'a dans le ventre. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, l'autre qui l'a dans la bouche. Voilà. Et voilà, donc on est d'accord. Qu'est-ce que c'est que cette idéologie athée? Il faudra quand même qu'un jour, on sache. Vous voyez, j'ai essayé de vous expliquer déjà Freud, donc voilà pour un. Ça va? Bon, je m'excuse pour ceux qui ont déjà entendu, quoi qu'on peut toujours le reprendre d'une autre manière, parce que ici nous regardons les idéologies, donc toute cette intuition, nous avons tous une certaine intuition du taux N. Nous savons qu'il faut toucher le taux N, là. Nous savons que la multiplicité doit être amenée à l'unité et que ça, c'est l'œuvre de l'homme qui est debout. Nous le savons. On n'y arrive pas, on est un petit peu désemparé, on n'est pas très doué, on n'est pas très contemplatif, on n'est pas très extatique, on n'est pas très lumineux ni très vivant, on n'est pas des saints, on n'est pas le bon Dieu. On n'est pas l'un en soi. Alors du coup, ça nous échappe un peu. Du coup, les idéologies qui dominent notre monde d'aujourd'hui depuis une centaine d'années, vont donner une version et imposer cette version dans les sept directions où on peut imposer une version idéologique. Pourquoi cette direction? Parce que dans l'homme, dans, c'est l'homme hein, qui est le centre, j'allais dire, de l'unification de l'esprit et de la matière, de la présence de l'éternité et du temps, de l'alpha et de l'oméga, de la multiplicité et de l'unité, de l'existence. Tout le monde sait ça, tout le monde au moins le pressent. En plus, c'est dans tous les mythes, c'est aussi dans les révélations religieuses. Mais c'est aussi dans l'intuition artistique. C'est aussi dans, pratiquement, c'est, vous voyez, c'est ce qui fait, j'allais dire, l'œcuménisme de tout le monde est d'accord avec ça. Il n'y a pas un seul qui va dire non, ça c'est ridicule. C'est évident, c'est l'évidence. C'est une intuition et en même temps une certitude d'expérience. Bon, alors, seulement il se trouve que l'homme, la nature humaine, la personne humaine, bon, eh bien, elle peut, j'allais dire, trouver une certaine ou une véritable unité, unification. La personne, c'est quelque chose qui se réalise où on est entièrement pris. Il n'y a pas quelque chose qui vous voyez, qui est à côté. On est, si vous voulez être entièrement pris dans une expérience vitale, une expérience personnelle, entièrement pris, vous êtes tout corps, âme, esprit, mobilisé. Eh bien, vous pouvez faire cette expérience dans cette direction possible. Ces expériences d'unité de l'âme, du corps et de l'esprit, de la personne, cette expérience d'unité dans l'acte, se fait dans cette direction possible. La première direction, je vous rappelle rapidement quelles sont ces sept directions. Mais si vous m'en trouvez, si vous nous en trouvez une huitième, n'hésitez pas. Hein. Moi, je vous en propose sept. Hein. Premièrement, nous avons une intelligence contemplative. L'intelligence, vous savez, nous met dans la multiplicité. On pense à ça, on pense à ça, on démontre ça. On a des démonstrations, surtout le mathématicien, vous voyez, le philosophe, les idéologues. Oh là là, ça se bouscule tout ça dans notre tête. Mais dès qu'on devient contemplatif, qu'on contemple la vérité, qu'on assimile la vérité en soi, celui qui fait cette expérience-là est entièrement mobilisé par sa vie contemplative. Chose que Freud ne peut pas savoir, par exemple, puisqu'il dit qu'il n'a jamais fait l'expérience, une seule fois de sa vie, d'une actuation contemplative. Pour lui, l'esprit n'existe pas. Mais pour ceux qui font l'expérience de la vie contemplative, ils savent très bien qu'à un moment, quand tu es pris par la contemplation et que tu touches une vérité concrète, réelle, et que tu es entièrement en contemplation devant elle, tout est mobilisé. Tout est mobilisé dans la lumière. C'est l'expérience. Nous avons une intelligence, et dans sa pointe spirituelle, humaine, elle rassemble, elle mobilise, elle unifie toute la multiplicité rassemblée dans un acte de vie contemplative. C'est pour ça que c'est si important de découvrir en nous la vie contemplative. Ça n'a rien à voir, c'est la philosophie, ça. C'est pas de la religion. Attention, non, non, moi c'est pour les curés, c'est pour les carmélites, ça. Alors, sous prétexte que je ne suis pas curé ou carmélite, je vais devenir un cochon. Incroyable. Allez, je vais devenir un cormoran, un hippopotame, puisque je ne suis pas carmélite. Donc, mais la vie contemplative, ce n'est pas pour les moines, c'est pour un être humain. Alors, quelle est l'idéologie derrière qui me bousille ça? Là, nous avons aussi une volonté. Alors, attention pour ce mot volonté, qui est un mot classique, et qui se traduirait aujourd'hui plutôt par le point de vue spirituel, ou si vous préférez, pneumatique, pneuma, n'est-ce pas? Pneuma. Hein? Pneuma, c'est pas pneumatique au sens de Michelin, hein? Donc, pneuma, c'est l'esprit. L'esprit en nous. La partie spirituelle du cœur. La partie spirituelle du cœur. La partie, j'allais dire, où notre cœur est capable de trouver dans sa source même humaine, sa puissance, une capacité à être immédiatement saisi par quelqu'un d'autre que lui, attiré par lui, et tomber dans le ravissement extatique. C'est l'autre qui m'attire. Et je l'aime. Et ça va jusqu'à l'extase. Tout est mobilisé dans l'extase. Ça, c'est humain, ça. Ah, oh, moi, l'extase, c'est pour les saints, c'est pour le padre Pio. Hein? Pour. Comment ça s'appelle, là? Je sais plus. Tous ces saints, c'est pas pour moi. Comment ça, c'est pas pour toi? Bien sûr, cet aspect extatique un petit peu extraordinaire, c'est zéro. C'est ce que disait la petite Marthe, Marthe Robin. Elle disait, mais. Petite Marthe Robin que j'ai connue, certains d'entre vous ont connu aussi, je crois. Bon, ben, c'est tous ces gens-là qui montent en lévitation au moment de l'extase. C'est terrible. C'est terrible. C'est un mauvais signe, ça. Pourquoi est-ce qu'elle disait? Oui, c'est un mauvais signe parce que ça prouve que c'est l'esprit qui est pris, mais il y a une rupture avec la terre, avec le corps. L'esprit est pris, pas le corps. Du coup, ça fait la lévitation. Mais si l'esprit et le corps étaient parfaitement unis et que tout était pris dans l'extase, il n'y a pas de lévitation. Il n'y a pas de lévitation. L'extase, c'est uniquement le cœur. C'est une expérience d'amour, voyez. Et l'amour unifie tout. Et les pieds restent sur la terre, et l'amour fait qu'on est en lien et qu'on reste là où on est. Voyez, on fleurit là où on est. Et cette extase, et là, elle est très concrète, elle n'est pas éthérique, elle n'est pas métapsychique. Parce qu'une étale, une extase où vous montez au plafond, vous êtes absolument sûr que c'est métapsychique. Ça, le gourou, il peut faire pareil. Hein. On peut vous donner des techniques chez les Tibétains. Je connais quelqu'un qui maintenant est devenu catholique, prêtre, mais enfin, qui enseignait en Inde au gourou comment on faisait pour rentrer en lévitation. Il leur donnait des techniques, il leur faisait des séances d'entraînement, et au bout de la session, tous les mecs, ils arrivaient à monter en lévitation. C'est une méthode. C'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Mais seulement essayer après d'être rentré là-dedans, essayer après d'essayer d'aimer quelqu'un. Pendant 20 ans, vous n'y arriverez pas. Alors, nous avons donc l'amour. C'est une des dimensions de l'homme. Nous avons la recherche de la vérité, première dimension de l'homme, la vie contemplative. Nous avons l'amour, recherche du bien, le bien en soi, vous voyez. Ah, la recherche du bien, l'amour. Ah, autre dimension en nous, nouvelle dimension en nous. Il y a beaucoup de dimensions en nous. Il n'y a pas que ce fait qu'on cherche la vérité, et puis on aime celui qui est proche de nous, et qu'on aime tout le monde, qu'on veut être tout attiré entièrement par quelqu'un d'autre que nous. Il y a d'autres choses. Nous avons aussi une vie intérieure. Nous avons une vie intérieure, nous avons une âme. Vous voyez ? En grec, c'est très intéressant de connaître le grec. En grec, c'est psyché. Alors, je le mets avec psyché. C'est là que vient psychologique. Hein. Nous avons une âme. Mais psyché, c'est pas forcément un spirit, c'est pas très dur. On a en commun avec les animaux, ça. Hein. Psyché. Oui, on a une âme. En commun, les animaux. Les animaux ont une âme. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, ils ont une âme. Leur âme n'est pas spirituelle. Mais ils ont une âme. Leur âme n'est pas immortelle, mais ils ont une âme. Parce que l'âme, c'est ce qui fait vivre de l'intérieur un vivant. C'est un mot, il y a quelque chose qui fait vivre de l'intérieur. Alors, et c'est des êtres vivants, ça, il n'y a pas de doute. Donc il y a une âme. Bon. Donc nous avons une âme, donc nous avons une vie intérieure. Nous avons une source d'unité intérieure, une source de vivification intérieure, une source d'actuation intérieure, toute notre diaphane intérieure, le grouillement vital qui est en nous est unifié à une source d'unité qui est l'âme. Ça, c'est très intéressant, ça. C'est très important. La vie intérieure, quelque chose de très important. Du reste, bon, enfin, donc, je passe rapidement et dis attention, oui, mais enfin, il faut quand même ne pas confondre ce qui est propre à l'homme dans cette vie intérieure est propre à l'animal ou propre à la plante, propre à Dieu, propre au monde logique. Nous n'avons pas les mêmes types de vie intérieure. Voyez, ça, c'est notre sujet du lundi. Ça. Voyez, les tentations viennent de là. C'est que je change de niveau. Je me prends pour un poisson. Je me prends pour un singe. Je me prends pour un oiseau. Je me prends pour un ange. Je me prends pour Dieu. Mais c'est marrant, je me prends jamais pour un homme, c'est bizarre. C'est extraordinaire, le point de vue de... Alors, la vie intérieure, vous comprenez, c'est très très important de trouver la source unique, lumineuse et vivante de mon unité intérieure, de mon vécu intérieur. C'est une dimension très importante, c'est pour ça qu'il y a des... C'est une dimension de la vie d'essayer quand même d'avoir une vie intérieure. Quelqu'un qui n'a aucune vie intérieure, c'est désastreux. Ou alors il a une vie intérieure, René. Alors, j'ai une vie intérieure, mais bon, je reste à la périphérie, hein, par ici, ma vie intérieure. Hein. D'accord, je ne suis pas extérieur, hein, d'accord. Ok, j'ai compris, père. Père Patrick, j'ai compris, je ne vais pas me mettre à l'extérieur, je vais me mettre à l'intérieur de moi, ma vie intérieure. Oh, qu'est-ce que je ressens, c'est formidable. Oh, je voudrais ressentir la paix, je voudrais planer un peu. Oh, vous voyez? Alors, bien, je suis bien, là, je suis bien. Ça, c'est très périphérique, hein, comme vie intérieure. Très périphérique. Alors, ah oui, d'accord, mon père, d'accord, je veux aller un peu plus profond dans ma vie intérieure. Oui, mon père. Ah, oui. Hein? Donc, je vais rentrer un petit peu plus profond dans ma vie intérieure. Un petit peu plus profond. Bon, ok. Ah, bon. Bon. C'est pas mal. Bon, moi je vais faire du bien, je vais donner. Bon, les autres me donnent rien, mais moi je donnerai quand même. Les autres sont nuls, mais enfin moi je leur donnerai, je les aimerai quand même, je leur pardonnerai, je ferai tout, je me donnerai, je vivrai intérieurement quand même en unité avec eux, je serai tolérant. Moi, j'ai raison, j'ai rien fait qui puisse vous exaspérer,
tout ce que j'ai fait c'est bien,
et d'ailleurs, en plus, je suis religieux aussi, ah oui, je suis religieux, je suis mystique, ah oui, je suis mystique, je suis mystique. Et moi, j'ai la grâce, et moi, j'ai eu une apparition. Et moi, Dieu m'a dit, c'est toi qui as raison.
C'est marrant ça, enfin, Dieu c'est moi quoi.
Bon, d'accord mon père, j'ai compris, on va aller un peu plus profond dans la vie intérieure, hein. Terrible. Ah, bah oui, c'est pas moi je, c'est les relations. Hein. On va rentrer dans les relations. Dans les relations. Voilà, l'unité, c'est un tissu de relations. Ah, voilà, c'est ça, j'ai trouvé. Oui, c'est la relation avec toi. C'est toi et c'est nous tous ensemble. Oui, c'est ça, l'intériorité, c'est... Bon, ça, vous avez reconnu l'intériorité New Age, hein? Oui, mon père, j'ai compris, c'est pas ça, on va aller un peu plus loin, dans la source d'unité. En dessous de l'ego, voilà. En dessous de l'ego, parce que tout ça, c'est l'ego, c'est ce que je viens de vous dire. Les trois couches de l'ego, ça. Alors, à un moment donné, en dessous, je vois qu'il y a une source intérieure. Cachée en dessous, toute simple. Et elle est lumineuse, je veux dire. Elle m'échappe, mais néanmoins, c'est quand même la source de moi-même. Et c'est, j'allais dire, même peut-être ce qu'il y a de plus, mais ce qui ressemble un peu à la libido de Freud. Mais... Ah, je vais vivre à ce niveau-là. Patatras. Et non, il y a quelque chose de plus profond encore que, parce que cette émanation, il faut arriver à trouver le principe même de l'actuation de mon diaphane intérieur, voyez, celui à travers lequel je suis. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle l'âme. L'âme se trouve donc dans cette cinquième, qui est encore au principe de l'émanation de la lumière, qui elle-même soutient tout mon ego, jouisseur, dominateur.
ou mystique, mystico-dingo. Donc c'est très important, vous voyez, la vie intérieure, c'est quelque chose de très important, parce qu'il y a diverses couches de mensonges, hein, d'illusions, comme disent les orientaux, maya. On a l'impression d'avoir une vie intérieure, mais c'est une illusion, maya. C'est illusoire. Parfaitement exact, parfaitement exact. Il faut savoir toucher en soi la source de la vie. Et cette source de la vie, contrairement à ce que disent les bouddhistes, vous voyez, ce n'est pas divin, c'est humain. Ce n'est pas Dieu. C'est humain, c'est l'âme. Ah, on a une vie intérieure, vous voyez. Ça, c'est très extraordinaire, la vie intérieure. Il faut avoir une vie intérieure. Quelqu'un qui n'a aucune vie intérieure est inintéressant. Aucune profondeur. Quatrième dimension. Ouais, c'est... Alors ça, ce qu'on est. Ici, il y en a un là, hein. Il connaît très bien tout ça, hein. Le bohain, vous voyez. Nous avons sur la pièce de 10 francs là, hein. La pièce de 10 francs, hein. Le génie de la liberté de la place de la Bastille, hein. Il a l'étoile à 6 branches sur le front. Pas l'oublier, ça. Hein. Ça veut dire qu'il a abandonné là. Contemplation de Dieu et l'union à Dieu pour absorber l'humain. L'étoile à 6 branches représente l'humanité dans ses 6 dimensions avec son cercle, la 7e, n'est-ce pas? Donc, vous savez très bien que l'étoile à 6 branches représente l'humanité dans sa perfection d'origine, dans sa perfection d'unité. Le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, l'humanité parfaite, élue, choisie, intégrée. Donc, le démon, vous voyez, sur le front, il y a des étoiles à 6 branches, vous avez sur vos pièces de 10 francs. Lucifer, il porte la lumière, il veut absorber l'humanité alors qu'il est là pour... Il avait été créé pour contempler Dieu, alors il a déchu et il essaye de s'absorber. Alors il se dit, mais comment est-ce que je vais faire pour les bouffer, toutes ces espèces de bêtes, ces oies, ces moutons de panurge, ces imbéciles? Je vais inventer... Quatrième dimension, sentir ça. Et si je vous dis ça, c'est, je le dis en tant que philosophe, je ne dis pas en tant que moine, hein, je le dis en tant que philosophe, parce que c'est les philosophes qui disent ça. C'est pas quand vous voyez par exemple Glucksmann, quand vous voyez Maurice Clavel, hein, avant qu'il se convertisse au catholicisme, mais il hurlait contre ça. Toutes ces espèces d'idéologies, ces maîtres penseurs qui détruisent l'humain. Glucksmann, nous sommes arrivés dans une civilisation, une génération où, pour la première fois dans l'histoire de la pensée et de la philosophie, pour la première fois, jamais on a vu ça. Ça, c'est un fait. Jamais on a vu ça. On est la première génération. Pour la première fois, il est impossible de découvrir aucune des dimensions de l'homme. Toutes les dimensions de l'homme ont été homicidées dans l'intelligence culturelle contemporaine. C'est la première fois dans l'histoire de la pensée qu'il y a ce suicide de la vie contemplative, des voies de la sagesse, quoi. Par où l'homme devient lui-même dans les 7 dimensions qui sont les siennes. C'est la première fois. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. C'est extraordinaire de savoir comment on a été éduqué. Il faut prendre conscience de ça, vous voyez. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un moine qui vient vous le dire, parce que les hommes ne vous le diront pas. La sagesse vient prendre le bras de mon frère, vous voyez, c'était pas moi, hein, c'était quelqu'un d'autre, prendre le bras de mon frère et une main comme ça. Il faut absolument sentir ça, vous voyez. C'est un petit peu pour ça qu'on est ici. Alors, troisième dimension là. Ah, autre dimension. Oh, que c'est intéressant. Nous avons un corps. Eh oui, nous faisons partie de la nature. Nous avons un corps. Nous avons un corps qui est animé biologiquement, physiologiquement, et qui, en raison du fait que c'est un corps humain, il y a une dimension spirituel à ce corps, une dimension métaphysique à ce corps, puisqu'il participe substantiellement, c'est pas accidentel du tout le corps, il participe substantiellement à l'unité de la personne, et en raison de quoi, il est en lien avec tous les autres corps. Il y a une relation, si vous voulez, entre le corps et tous les autres corps. Il y a une relation entre le fait que nous sommes un corps et que nous sommes dans la nature. L'homme est responsable de toute la nature, de tout l'univers, de tous les autres corps. Il a une relation sur eux, une interférence sur eux, une réceptivité par rapport à eux. L'automne. Il y a une responsabilité. La Bible, par exemple, emploie ça dans le livre de la Genèse sous un certain mode, vous voyez, en exprimant que, je crée l'homme à l'image de Dieu et je lui demande de dominer sur toute la terre. Dominer sur les poissons, sur les animaux, sur la création, sur tous les autres corps. La nature. Il y a une dimension naturelle en nous. La dimension de la nature. Quelqu'un qui n'est pas naturel, c'est pénible. Quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau, c'est pénible. Il ne rayonne pas. Alors, quand vous mettez un chêne, au bout d'un certain temps, le chêne devient très grand. Et alors, et bien, le milieu autour du chêne change. C'est plus du tout la même végétation, c'est plus du tout le même. Vous voyez, un grand vivant transforme le milieu qui est autour de lui. Un chêne, c'est très, très. Mais quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui a trouvé son corps spirituel, son corps humain, mais j'allais dire tous ceux qui l'approchent sont ipso facto, rétablis dans l'axe de leur nature. Ipso facto, aussitôt, sans réflexion, sans qu'il y ait une amitié, un amour ou quoi que ce soit, sans qu'il y ait une expérience intérieure, non, ipso facto. Tu viens embrasser le Saint-Père qui, bien dans sa peau, paf, t'es dans l'axe aussitôt, sans réfléchir. Je dis Saint-Père, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Que, si vous n'avez jamais embrassé le Saint-Père, prenez quelqu'un d'autre. Prenez Bernard, par exemple. C'est l'acolyte direct, vous voyez. Bon. Alors, vous avez ensuite, donc ça va de la dimension du corps. Est-ce que vous en voyez d'autres dimensions? Bien sûr, nous avons une autre dimension. Vous avez la dimension que vous savez par cœur depuis le temps que je vous le dis. Allez, aidez-moi, on cherche ensemble. Qu'est-ce qu'il y a encore? Une autre dimension de l'homme. Ne pompez pas sur votre. L'autre dimension, nous avons une dimension très importante. C'est que nous faisons partie d'une famille, nous faisons partie d'une société, nous faisons partie d'une communauté, nous faisons partie d'une humanité. C'est la dimension sociale, communautaire, familiale, voyez. L'homme, au fond, est un membre, voyez, une partie de la communauté. C'est un être politique, voyez, c'est la dimension, au fond, sociale, communautaire, familiale, politique. Très important, ça. Quelqu'un qui dit, moi, je m'en fous, je suis ermite, je m'isole, et puis c'est tout. Je veux être un homme complet. Aucune relation, dans aucun. La communauté, pour moi, ça n'existe pas. La famille, pour moi, ça n'existe pas. Je suis tout seul, prends la ligne. Hein. Et puis c'est bien quand personne vient de m'embêter. Je suis contemplatif, j'aime le bon Dieu, j'aime l'être premier, le bien en soi. J'ai une intériorité comme ça, hein. Très bien, bien dans ma peau, ça, pas mal. Alors, la communauté, je m'en balance, et eh bien ça, t'intéresse, c'est pas ça. Je ne suis pas disponible. Pour les autres, je ne suis pas responsable. Vous voyez, c'est Caïn vis-à-vis d'Abel. Moi, je ne suis pas responsable de mon frère. Moi. Eh bien, Caïn, c'est un très mauvais ermite. Moi, je ne suis pas responsable de mon frère. Ce n'est pas mon problème. La dimension sociale, c'est très ennuyeux. Quelqu'un qui serait, vous voyez. Le contraire, c'est l'égoïsme, si vous voulez, vous comprenez tout de suite, bien sûr. L'isolement, la monade. Alors moi, je trouve mon unité, là, ici, je suis bien, là, je trouve mon unité, les autres, ils me foutent en l'air. D'ailleurs, Sartre l'a bien dit, l'enfer, c'est les autres. Donc, bon. Il y a une dimension communautaire, nous sommes responsables de la communauté, nous sommes un membre d'un corps mystique, d'un corps humain, d'un corps collectif. Vous voyez ? Et ça, c'est très important. Quelqu'un qui ne vit pas de ça et qui n'en fait pas l'expérience. Est-ce que c'est encore un homme? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, on en bave, hein, d'accord. Hein. Dès qu'on confond une famille, dès qu'on confond une communauté, ça se bouscule. Hein. Si on veut être tranquille, être bien et planer, hein, vaut mieux pas. Hein. Mais si on veut être un homme, oui. Ah, alors qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Autre dimension. Donc la dimension politique ici, communautaire, sociale. Bon, qu'est-ce qu'on coopère? Il y a encore une autre dimension. C'est que, bien sûr, nous sommes la dimension artistique, la dimension du travail. Ah ben moi voilà, ok, hein, moi je vis vraiment en communauté, je coopère, je suis bien dans ma peau, j'ai une vie intérieure, j'aime tout le monde, je contemple, et on a une harmonie formidable. Mais ne comptez pas sur moi pour faire la cuisine. Hein. Ne comptez pas sur moi pour travailler. Ne comptez pas sur moi. Ne comptez pas sur moi. D'ailleurs, la vie, c'est pas dans l'adgérer qui consiste à avoir des actes d'amour intérieur et véritable vis-à-vis des autres, et puis incarner. L'art, c'est encore autre chose, voyez. C'est que nous avons chacun quelque chose de génial en nous, que l'autre n'a pas. Et nous sommes capables de transformer la matière qui est autour de nous pour améliorer l'univers. L'univers nous est donné comme quelque chose à améliorer pour apporter un plus, une beauté, une splendeur. Voyez ? Et faire que ce soit plus huilé, voyez, plus facile, plus beau. Et ça vient de l'inspiration. On a tous des inspirations. Regardez comme c'est une dimension si différente de l'amour. L'amour, l'autre est là, et vous êtes comme vous êtes capable d'habiter votre cœur spirituel. Quand l'autre est là, il vous attire, et vous, c'est lui qui unifie toute votre vie. Vous attire. L'unification se fait par l'amour. Et ici, dans l'art, lorsque M. Mémanaz, qui est le nez de Rochart, vous vous rappelez de cette histoire, du nez de Rochart, M. Mémanaz est un type extraordinaire, il a un nez. Le nez, vous savez ce que c'est qu'un nez, c'est quelqu'un qui sent tous les parfums, donc il connaît 7-8 000 parfums par cœur, puis il fait des compositions. C'est un peu fatigué, et c'est un artiste. C'est de l'art, hein, de faire un parfum, c'est beau, un parfum est agréable. Hein. Et qu'est-ce que c'est qu'un artiste? C'est quand il porte quelque chose de très très fort en lui, il veut le traduire sous forme de sculpture, il veut le traduire sous forme de sculpture, il veut le traduire sous forme de parfum, il veut le traduire sous forme de musique, il veut le traduire sous forme théâtrale, il veut le traduire d'un artiste. Il y a quelqu'un, pareil, qui essaye d'enseigner la vérité, il porte très très fort cette vérité dont il a fait l'expérience, grâce à tous ceux qui l'ont mis sur cette voie. Mais s'il n'est pas artiste du tout, s'il n'est pas artiste du tout pour essayer d'expliquer, s'il n'a aucun sens du théâtre, s'il dit, moi, c'est uniquement ça, hein, mais surtout pas être artiste. Hein. Donc, que ça passe pas, je m'en fous. Mais là, c'est justement pour aider à ce que ça se transforme, vous voyez, à l'extérieur de vous. Qui est une éducation. Quand vous éduquez un enfant, vous savez très bien qu'il faut lui donner des bontés, des biens, des vérités qu'il n'a pas, des vertus qu'il n'a pas. Et vous le savez, vous en êtes sûr. Et donc l'enfant est une matière transformable. Et c'est ça l'éducation. L'éducation, c'est que vous dites non. Et c'est par là qu'il faut aller. Et on explique pourquoi. Et on communique la vie. Et on donne de la beauté, de la splendeur, de la noblesse et du rayonnement. Donc si je dis, ah, oh, moi je l'aime mon enfant, moi je le comprends, moi il souffre, tu comprends, hein, psychiquement, hein, il y a des névroses, hein. Vous comprenez, c'est sûr, hein, vous pouvez voir aussi, hein, comme la maîtresse à l'école, comment elle lui a parlé, hein, tout, et non, ouais, non, déjà, il est déjà suffisamment traumatisé comme ça dans le monde d'aujourd'hui, tout ça, hein. Tu comprends? Donc, faut pas l'éduquer, tu vas le castrer encore davantage. Mais attends. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu veux son bien ou pas? L'éducation, c'est important. Le point de vue artistique, c'est important. Hein? L'autre jour, on avait une réunion de famille. On s'est retrouvé une trentaine auprès de ma maman, elle avait 70 ans. Alors, on s'est retrouvé à 32 ou 33, 33, je crois, 33 descendants de ma mère. Et puis, ben voilà. Ben, écoutez, c'était sympathique, je suis désolé. C'était très sympa. C'était très sympa. Elle ne savait pas hein, qu'on devrait rappliquer de partout, de Strasbourg, de Toulouse, de partout. On tous rappliquer pour les 70 ans de ma maman. Alors, elle est rentrée un moment dans la cuisine, on a ouvert la lumière, on était tous là. On s'est dit, il faut faire attention quand même, il ne faudrait pas qu'elle ait une attaque. Et puis chacun a exprimé, vous voyez, on était roulés de rire ensemble. Roulés, parce que il y a des gens qui ont des dons artistiques chez nous, ça. Écoutez, c'était sympa. Qu'est-ce que c'est triste, une famille où il n'y a pas d'artiste. Les cases, tu sais, plaf, les cases, tu sais, comme on dit soviétique, t'as là, ce truc stalinien, plaf, 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 et plaf, plaf. Non, mais faut pas être stagné, ils sont calus, ces mecs, il faut être artiste. Bon, très important, c'est pas du tout pareil. Comment c'est l'art? C'est que vous avez une inspiration très très forte. Vous portez quelque chose de très très fort dans la beauté, dans la lumière, et vous voulez le transmettre pour transformer la matière. Vous prenez un bloc de marbre de Carrare, et puis vous prenez votre ciseau, vous le transformez en voile de crépon. Extraordinaire, que c'est beau, je connais une comme ça, qui est putain, hops, formidable, formidable, c'est extraordinaire. Un bloc de marbre de Carrare, déjà qu'elle paye 100 000 francs, c'est lourd, n'est-ce pas? Puis après, elle sculpte. Des gens ailés, des voiles de crépon en marbre. Moi, j'arriverais peut-être à l'égard à faire un carré un peu plus petit. Avec la disqueuse, c'est extraordinaire. Donc, Mémanas se dit, oh là, j'ai vu Mémanas, donc le nez de Rochat, dit, bon, je vais me reposer un peu. J'ai des parfums, j'ai des milliers de parfums dans le nez. Ça fait 20 jours que j'arrête pas de faire ça. J'arrive plus à rien sentir. Calme, calme, tranquille, silence. J'arrête, je pars, je vais en Italie. Voilà. Je vais en Italie et je vais voir les mosaïques de Ravenne. Enfin, puis, on fait un petit truc. J'arrête, plus de parfum, rien du tout, plus d'aftershave. Le jeûne. Vous voyez, l'art, il faut d'abord s'arrêter, faire un certain jeûne, jeûner un peu, plus rien de l'extérieur, qu'il n'y ait plus que le silence intérieur. Et dans le silence intérieur, je trouve l'idéa, c'est-à-dire cette beauté qui m'est propre, cette perspicacité, cette sensibilité, cet éveil intérieur qui fait que mon inspiration, je serai complètement éveillé à quelque chose qui va jaillir de moi. Et effectivement, il va à Ravenne, et vous allez dans la basilique de Ravenne, mais pas particulièrement en catho, hein, puisque Mémanas est plutôt orthodoxe, n'est-ce pas, parce qu'il vient de Grèce. Il va dans la basilique de Ravenne, et dans la basilique de Ravenne, il y a des mosaïques extraordinaires. Si vous allez à Ravenne, allez voir les mosaïques de Ravenne. Il est là. Et ça, comme dans le silence du jeûne, vous voyez, c'est l'extérieur, ça fait jaillir en lui une impression intérieure très très forte. Et cette impression intérieure que lui ont donné les mosaïques de Ravenne, vous voyez, ils l'ont vraiment saisi. Vous voyez, la saisie de l'inspiration unifie l'artiste. Il est saisi par son inspiration. Il dit, mais il faut que je traduise ce que je viens de ressentir en parfum. Et c'est là qu'il a créé Byzance. Et, mesdames, vous comprenez Byzance? C'est devant les mosaïques de Ravenne qu'un artiste... C'est à partir de ton inspiration. Donc c'est quoi l'artiste? Tu as une inspiration qui vient de toi. C'est toi qui es source. Et c'est toi qui impose à la pluralité d'une complexité. Vous voyez, tu mélanges la glaise, tu mélanges des parfums, tu mélanges, c'est pas moi, tu, tu, tu mélanges le couteau et la pierre, tu c'est toi qui impose la forme que tu portes à la matière. C'est toi. Ça vient de toi. Tandis que dans l'amour, c'est le contraire. Tout vient de l'autre qui t'attire. Oui, c'est donc bien une expérience différente. Et un artiste est complètement mobilisé. Hein. Complètement. C'est pour ça que s'il est qu'artiste, et uniquement artiste, c'est désastreux. Du point de vue de l'amour, une fois j'ai fait une session, je me suis retrouvé pendant un mois, c'est beaucoup un mois, avec 200 artistes. C'est fort. Il y avait des violonistes, il y avait des pianistes, il y avait des trompettistes, des trompettistes, des bassistes, des compositeurs de musique, etc. 200. Et je leur ai proposé, pendant un mois, une fois tous les deux ou trois jours, une réflexion philosophique sur l'art. C'est pas le moine, hein. Le moine pose, parce que j'étais avec eux. Pas longtemps, pas très longtemps de ça, il y a 6-7 ans peut-être. Attends, c'était encore, c'était en 87. Bon, c'est extraordinaire. On a essayé de faire un parallèle entre le point de vue de l'amour et le point de vue de l'art. On a regardé. On a passé un mois à faire ça. C'est impressionnant. Hein? Ils n'avaient jamais pensé à ça. Jamais. Pourtant, c'est une expérience élémentaire. Et aucun d'entre eux, parce que c'était vraiment des gens qui se donnaient à fond dans l'art, c'est toute leur vie. C'est très, très, très frappant. Très, très frappant. De voir que toute leur vie amoureuse était un échec. Il n'y avait pas de fidélité, il y avait trahison, il n'y avait pas. C'est ce qui portait en eux, vous comprenez, qui comptait. Le pli de l'art avait tout pris. Mais celui qui est dans le pli du cœur, de l'affectivité, il n'y a que de l'affectivité, et puis finalement, il ne transforme rien, vous voyez, c'est aussi une catastrophe. Faire attention. Donc vous comprenez, l'histoire des sept dimensions de l'homme, comme c'est important, puisque l'unité, c'est pas de rentrer dans un seul type d'une dimension de l'homme et d'être entièrement mobilisé à l'intérieur de cette expérience, mais l'unité est évidemment beaucoup plus profonde que ça. Je parle de l'unité, je ne parle pas de l'un. L'unité, c'est de faire que toutes les dimensions de l'homme sont actuellement mobilisées dans une seule unité, dans l'harmonie. Et une fois que j'ai l'unité, je peux peut-être saisir ce que c'est que l'art, le Tohen. Vous voyez, nous avons ici le programme de l'année. Hein? Alors attention, donc je continue, parce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il reste encore une dimension de l'homme que vous n'aviez peut-être pas vue. Et alors quand même. Ah, très bien, merci. J'en étais sûr que c'était le seul qui était bien dans sa peau. Tu l'as alors. La dimension. Eh oui, c'est la dimension sacrée. La dimension d'infini, la dimension d'éternité, la dimension de liberté absolue, la liberté religieuse, si vous préférez. Nous sommes dépendants, c'est la dimension de dépendance totale. Nous sommes en totale dépendance vis-à-vis du Créateur. Il y a des tas de gens qui n'acceptent pas cette dimension-là. Je n'accepte pas, je ne veux pas accepter que je suis dépendant actuellement de l'acte créateur de Dieu. Si j'existe, c'est parce que Dieu est en train de faire que j'existe. Je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas l'accepter. Et je ne veux pas faire l'expérience vitale, lumineuse, amoureuse, intérieure, physique et collective, j'allais dire, et en même temps brûlante, de cette dépendance vis-à-vis de la créature de Dieu dans un acte d'adoration. Je n'en veux pas. Alors je suis athée. Je vis sans mon créateur et coupé mon créateur. Ce que vous avez sur les pièces de 10 francs. C'est extraordinaire, on peut faire la. Si vous voulez, la lecture de la pièce de 10 francs, c'est mieux. Nous avons une dimension religieuse. Tous, d'entre nous, nous avons tous la dimension religieuse. Même les gens qui sont athées ont une dimension religieuse, puisque l'athéisme, c'est une dimension religieuse. C'est une manière de se positionner par rapport à cette dépendance irrécusable. C'est accablant que nous sommes sous la dépendance. Notre existence ne vient pas de nous. Notre vie, ça vient de la nature, des parents, tout ce que vous voulez. Mais le fait que j'existe, non. Ah, ça ne vient pas des parents. Je l'existe dans une âme spirituelle, individuée, subsistante. Oh, j'ai des mots compliqués. Ah oui, c'est là, effectivement. Il vaut mieux, si je veux me séparer de la dimension religieuse, il vaut mieux aussi couper pas mal la question de l'intelligence. Hein. Parce que c'est mieux, hein. C'est mieux, parce que malheureusement, c'est par l'intelligence, c'est par une évidence de l'intelligence, suite une démonstration de l'existence de l'être premier, du jugement d'existence, la dimension métaphysique en nous, que nous voyons avec clarté, irréfutablement. C'est une démonstration, elle est irrenversable. Ça fait 2 siècles que nos fameux idéologues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Hegel en soubassement, le pauvre, s'il savait, essayent de nous démontrer que cette démonstration de l'existence d'un être premier est... n'a pas de valeur, et ils sont malheureusement tous, parce qu'ils ne sont pas idiots, hein. Sartre n'est pas idiot, Kant, Sartre, tout ça, Auguste Comte, ce n'est pas des imbéciles, hein. Nietzsche, c'est un type génial, Feuerbach, c'est un homme supérieur du point de vue de la pénétration, ils sont obligés de constater que cette démonstration-là, hein, il vaut mieux pas en parler, quoi. Parce qu'on ne peut pas la renverser, cette démonstration. Je crois que je vous l'ai déjà fait à quelques-uns d'entre vous qui ont eu le bonheur de venir me visiter à l'Ermitage. On a fait une petite session qui s'appelle Retraite de Saint-Marc, je crois. Retraite de Saint-Marc. On a fait, c'est sur une série de cassettes de 5 à 6 cassettes, où on essaye de voir comment l'intelligence détecte le principe même, source de la volonté, de l'amour, de l'âme. Et puis aussi de la nature, le principe, tous les principes, toutes les inductions. Et puis après, on a fait la démonstration, j'ai proposé la fameuse démonstration de l'existence de l'être premier. Ça ne se fait pas, la démonstration. Chacun peut la faire par lui-même. Moi, j'ai dû la faire 5-6 fois dans ma vie. Mais une fois qu'elle est faite, je vous affirme qu'il n'existe plus un doute possible. Hein. C'est comme quelqu'un que on t'a dit, mais non, il n'existe pas le Père Patrick, c'est un mythe. Et puis boum, tu arrives, tu prends le feu rouge ici, tu arrives au Crest, Père Patrick arrive, d'ops, boum, il te rentre dans la bagnole, tu te dis, con, pourquoi est-ce que vous êtes rentré dans la bagnole? Et Père Patrick te casse la figure. Là, après tu ne diras plus, Patrick, c'est un mythe. J'ai encore mon œil au beurre noir. Non mais c'est sûr, vous comprenez que c'est très important cette histoire des 7 dimensions de l'homme. Si vous trouvez une 8e dimension de l'homme, vite, 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 je vous en supplie, écrivez-nous. Vous êtes vraiment le génie qu'on attendait depuis à peu près 2500 ans. Mais si vous avez l'expérience d'une autre dimension de l'homme, voyez. Alors là, vous nous intéressez, hein, écrivez-nous, j'en sais plus, parce que c'est justement peut-être que si le monde va si mal, c'est qu'on n'a pas découvert cette 8e dimension, n'est-ce pas? Alors, bien sûr qu'il y a une 8e dimension, ça c'est la foi, c'est le Christ, la grâce surnaturelle. Bien sûr, on est d'accord. Mais finalement, elle se ramène quand même à la dimension religieuse, c'est un approfondissement de la dimension religieuse, qui assume toutes les autres dimensions par la grâce. Mais ça reste quand même dans la 7e. Hein. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va dire, mais alors, ben oui, où sont les sept idéologies du monde, monsieur? Quelle heure il est? 82. Quelles sont ces sept bêtes? Alors vous comprenez, c'est ça qui est extraordinaire. Il faut qu'on comprenne la situation dans laquelle on est au niveau de l'intelligence. Pourquoi notre intelligence ne fonctionne plus? Pourquoi est-ce que notre cœur ne fonctionne plus? Pourquoi est-ce que notre intériorité est vraiment lamentable? Pourquoi est-ce que notre corps est si mal foutu, si on est si mal dans notre peau? Pourquoi est-ce qu'on rayonne pas? Pourquoi est-ce que la nature et nous ne sommes pas dans une harmonie de lumière et de vie et incarnée? Comment ça se fait qu'on a tellement de mal à se trouver en famille, en communauté? Pourquoi j'ai toujours des volcans, des suspicions, des jalousies? Comment ça se fait? Comment ça se fait que je suis pas drôle, hein? Comment ça se fait que l'union à Dieu, alors là, j'arrive pas. Comment ça se fait? Il faut sentir ça. Eh bien, il faut le savoir. Comme disait frère Ephraïm, il faut le savoir. Frères et sœurs, c'est parce que nous avons abandonné le Christ, frères et sœurs, et il va venir dans un déluge de feu, frères et sœurs, pour brûler tous ces mensonges, frères et sœurs. C'est ce qu'il disait à Reims l'autre jour. J'étais à côté de lui. Hein. Ah, moi j'étais à côté de lui. Je dis amen. Parce qu'il est charismatique. Il est charismatique, hein, frère Ephraïm. Alors je faisais amen, amen. Non, on s'entend très bien, il était. Et alors après, j'ai célébré la messe et il était mon diacre, n'est-ce pas? Et c'était lui qui faisait le diacre, alors. Et puis je faisais. Alors du coup, il m'a rendu l'appareil après. C'est béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Alors il disait, amen. C'est merveilleux, on était comme ça, tous les deux. Comme ça, c'est extraordinaire, vous voyez. C'est extraordinaire, il n'y avait pas un amour fou entre nous et puis tous ceux qui étaient là, comprenez. Tous ceux qui étaient là dans la boue, dans le froid, dans la pluie, épuisés par 100 km de marche à pied. C'était magnifique, qu'est-ce que vous voulez? Alors bon, la veille c'était Daniel Ange, alors. Amen! Et alors, j'ai amené ici une croix! Amen, une croix! La croix de Jésus! Ah, alors bon. Là, je ne faisais pas. La croix, c'était autre chose. C'était extraordinaire, c'était magnifique. Bon, mais enfin, c'était très très beau de voir, vous voyez, c'est une expérience humaine très forte qu'il y a eu entre. Pour aller à Reims, là, on était une expérience communautaire, des expériences d'amitié, des expériences d'amour. Pas un murmure. Enfin, Dieu sait que c'était pas commode, hein, parce que tu sais, au fait, des pèlerinages, il y a tout le temps quelqu'un qui dit Ah, il va à la classe. Pas un murmure. Pas un murmure, quand le message a commencé. C'est extraordinaire, puis, vous voyez, on a eu une expérience très très forte, vous voyez. C'est sûr. Humainement parlant, c'était très beau. Je crois. Bon, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Bon, mais j'étais en train de dire, donc, pourquoi est-ce que je n'y arrive pas? Eh bien, j'y arrive pas, frères et sœurs, parce que nous sommes, nous a dit le Saint-Père, c'est le Saint-Père qui a dit ça il y a 15 ans, il a donné l'explication. Nous sommes dans les grandes luttes de l'Apocalypse. Le dragon à 7 têtes et à 10 cornes est là. Et nous sommes la génération où, sur l'ensemble de l'humanité, les 10 cornes, ça veut dire la puissance. Les couronnes, sur chaque tête est couronnée, ça veut dire qu'elle domine, 7 fois, c'est-à-dire totalement, au niveau temporel. Et enfin, elle crache, voilà pourquoi il y a une bouche, à chaque fois, elle crache des blasphèmes, c'est-à-dire des idéologies qui enseignent de manière structurelle et convaincante que Dieu n'existe pas. Et enfin, troisièmement, ce sont des têtes, c'est-à-dire que ce sont des pensées, ce sont des idéologies. Le tout vient d'un seul principe qui est le primat du néant. Hegel. Et ça, vous voyez, cette dragon à sept têtes, c'est-à-dire licorne, empêche tous ceux qui sont sur l'orbe de la Terre, qui accumulent ces idéologies, les empêchent de voir, où est le centre de chacune de ces lieux d'épanouissement de leur humanité. Pourquoi ? C'est un phénomène d'inhibition. Vous me suivez ? Évidemment, si vous ne voyez pas le chemin, s'il fait nuit, tu ne peux pas circuler à 160 sur ta manuelle sur la route. Hein, ça, c'est évident. Donc l'idéologie en ténèbres, et du coup, vous ne pouvez pas avancer. Hein, c'est à cause de ça. Les idéologies en ténèbres et alors, quel est le propre de chacune des sept idéologies ? Si vous voulez savoir le fin fond, en peu de temps, parce que vous n'avez pas besoin de faire 20 ans de philosophie, hein, si en peu de temps vous voulez savoir le fin fond de chacune de ces pensées, que ce soit les psychanalystes, moi je vous ai fait tout à l'heure Freud, c'est très facile. Vous prenez une des dimensions de l'homme, une des dimensions de Freud, c'est ici. J'ai envie de m'épanouir, j'ai besoin de bonheur, j'ai besoin de me répandre, j'ai besoin de ce mouvement et de l'intérieur vers l'extérieur. L'extase. Le mouvement de l'extase, l'amour, l'amour c'est ça. Mais l'amour ne s'enracine pas dans un cœur spirituel, il s'enracine dans là. Vous voyez. Tout le reste, pour Freud, n'existe pas. L'esprit n'existe pas. L'acte créateur de Dieu n'existe pas. La dimension artistique, elle se ramène à la volonté. Je veux manger une sucette. La dimension communautaire, c'est pouvoir s'imposer. Vous voyez ? C'est je suis le tout, et puis la communauté est à mon service. Elle me donne à bouffer. Le corps, lui, c'est justement le lieu même. Donc tout est ramené à une seule dimension. Les idéologies athées, c'est très simple, c'est de tout ramener l'homme à une seule dimension. Mais en ramenant l'homme à une seule dimension, comprenez dans l'amour par exemple, donc j'ai donc cette dimension dans l'homme, vous avez compris ça. Vous le comprenez, j'espère que ça vous voyez à quoi ça correspond au niveau de l'expérience vitale, des actes que vous produisez. Hein? Mais chacune de ces dimensions, comme celle par exemple de l'affectivité, l'amour, chacune est en lien avec tout l'homme. Et c'est pourquoi il y a des degrés de profondeur. Il y a des degrés de profondeur dans l'amour. Tu peux aimer de manière instinctive, voyez, instinctive. Tu peux aimer, voyez, lié au corps. Tu peux aimer de manière passionnelle. La passion, ça c'est psychique. Comme l'hippopotame, pareil, la colombe, la tourterelle. C'est passionnel. Tu peux aimer, tu peux aimer de manière, tu peux aimer, qu'est-ce qui reste encore ? Ici, là, oui. Donc, tu peux aimer, de manière, dans la solidarité, ça s'appelle l'amour romantique ou idéaliste, romantique. Bon, tu peux aimer de manière artistique, t'es un bon éducateur, je l'aime, donc je vais transformer l'autre, je l'aime, la preuve, c'est une matière transformable, je vais le rendre meilleur. Hein ? Il n'a pas la foi, donc je vais lui donner la foi. Oui, je l'aime. Ah, c'est extraordinaire. L'amour, il a plein de dimensions de profondeur. Il y a une dimension d'absolue, d'éternité.